Irmir Abba. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix.
Bonjour à tous, très heureux de retrouver ceux qui arrivent ce matin. On a déjà commencé un peu hier et je dois avouer que vous avez raté une bonne introduction parce que non pas qu'elle était bonne mais que c'était important et je vais vous dire quand même deux mots là-dessus parce que c'est vraiment important de fixer ce qu'on a dit hier avant de traiter ce qu'on va traiter ce matin. Mais avant cela, je vais un peu me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. Donc, je suis frère Michel-Marie des Fraternités de Jérusalem. Donc, je suis dans les Fraternités depuis 12 ans et je suis prêtre depuis 2 ans exactement aujourd'hui. Donc, c'est l'anniversaire de mon ordination. Merci. Voilà. Je suis Libanais et j'ai vécu une grande partie de ma vie en France. Et actuellement, je suis à Rome, où j'essaye, parce que c'est, comme je disais hier, on commence un doctorat un jour et on ne sait pas quand on va le finir. Donc, je suis en train de faire une recherche en doctorat en théologie des familles. Donc, c'est un institut Jean-Paul II que le pape Jean-Paul II a créé pour que des théologiens s'intéressent à toutes les dimensions concernent la famille. Et donc moi, je fais un sujet de recherche un peu particulier où je m'intéresse à un phénomène social qui augmente beaucoup, surtout dans les dernières années, c'est le célibat non consacré, ce qui est une parole très fausse, mais vous comprenez de ce dont il s'agit au moins, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas mariées, pas consacrées. Et c'est encore une fois très mauvais de dire ça parce qu'on les définit par le nini, qui n'est pas bon non plus. Mais c'est juste pour vous expliquer un peu la population à laquelle je m'intéresse et surtout à travers eux, à nous tous, parce que c'est quelque chose qui est vraiment un phénomène de société qui se manifeste dans certaines personnes, mais qui concerne tout le monde. Voilà pour la présentation, voilà par rapport à...
Est-ce que je peux poser une question qui est venue comme ça? C'est libanais,
oui.
Donc tu viens du Liban.
Oui.
Ta religion d'enfance, c'était quoi?
C'était chrétien. Oui. Non, le Liban, c'est un pays à moitié chrétien, à moitié musulman, mais l'Église est très forte. Il n'y a pas du tout une sorte de persécution, disons, des chrétiens comme peut y avoir dans d'autres pays orientaux. C'est une religion qui est vraiment reconnue, forte, libre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Oui.
Et qui est très ancienne. Je veux le micro de l'autre côté parce que ce n'est pas terrible.
Oui, est-ce que tout le monde entendait plus ou moins? Est-ce que vous entendez mieux? Là, ça va? Donc voilà, donc ça c'est pour la présentation. Après, un tout petit résumé de ce qu'on a dit hier, malheureusement on ne pourra pas tout redire, mais au fait, ce qui est important, et c'est presque une demande que je vous fais, quand on vous dit on va parler de la croix glorieuse, évidemment nous tous, on pense d'abord que le thème principal, et c'est vrai, ça sera la croix. Et c'est très important, effectivement. Mais on oublie qu'il y a quand même l'autre dimension qui est tout aussi importante, sinon plus importante, qui est celle de la gloire. Donc, au fait, hier, on a un peu abordé le thème de la gloire en insistant surtout que c'est très important de fixer l'objectif de notre marche derrière le Christ, notre destination. Et c'est une fois que nous sommes au clair très profondément sur notre destination, qu'alors on peut commencer le chemin. Souvent, nous, on se met en marche derrière le Christ et on oublie où est-ce qu'il veut nous emmener. Ce qui fait que la marche devient très fatigante, très difficile et on a du mal à le suivre parce qu'on oublie souvent où est-ce que le Christ veut nous emmener. Et donc, il faut qu'on soit très enraciné dans cette certitude que tout ce que nous demande le Christ, absolument tout, et c'est une constante, c'est la vérité la plus certaine. Tout ce que nous demande le Christ, c'est pour plus de vie. Il est le Dieu de la vie, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, en Jean 10:10. Et donc, c'est une certitude. Donc, à chaque fois qu'il y a dans notre vie des contradictions par rapport à cette certitude, c'est celle-là qui doit gagner. Je dois être vraiment conscient et profondément convaincu dans mon cœur, mais ce n'est pas toujours évident, mais au moins au niveau de l'esprit, d'être convaincu qu'à chaque fois que je sens que le Christ m'invite sur un chemin, m'invite dans une direction, c'est nécessairement pour plus de vie. Voilà. Et donc, c'est ça ce qui est important. Et surtout, donc, pour la vie, ça c'est la première chose importante. Et la deuxième chose, il nous demande de le suivre toujours par amour. Pour la vie et par amour. Et seulement pour la vie et par amour. Et c'est sûr que dans notre cœur se mélangent beaucoup d'autres considérations, de peur, d'inquiétude, de frustration, des choses qui peuvent se contredire avec ces deux réalités. Il faut que, autant que possible, j'essaye en permanence d'ajuster mon cœur, mais ce service que je rends, ce sacrifice que j'accepte de faire, ce renoncement que je fais, est-ce que c'est pour plus de vie et par amour ou non ? Il faut que je me pose la question, est-ce que je suis conscient que ce que je suis en train de donner, ce que j'accepte de ne pas vivre pour suivre le Christ, est-ce que je le fais vraiment par amour et pour plus de vie ? Est-ce que je suis conscient que chacun de mes renoncements fait accroître dans ma vie cette vitalité ? Et est-ce que c'est par amour ? Parce que c'est encore une fois une marche assez difficile à la suite du Christ, mais si c'est pour la vie et par amour, ce sont les deux ailes qui peuvent nous porter pour pouvoir traverser toutes les épreuves, comme nous allons le voir ce matin, qui nécessairement viendront sur notre chemin. Donc voilà, c'était un peu l'introduction d'hier, c'était de ne jamais oublier que nous allons vers la gloire et que le Seigneur veut nous glorifier et que l'unique objectif, encore une fois, de toute notre vie chrétienne, c'est ce terme de gloire. Rien d'autre. Et je ne peux pas oublier ça parce que des fois dans le tunnel, quand on est en train de traverser certaines épreuves, on risque, si on oublie l'objectif, de ne plus pouvoir avancer. Donc voilà, c'est toujours fixer l'œil sur le terme de notre chemin, de notre pèlerinage. C'est un terme merveilleux, on en a parlé un peu hier, et ce qu'on peut résumer pour qu'on ne confonde pas gloire et orgueil, hier on en a parlé, c'est pas du tout de l'orgueil d'être glorifié. La gloire, on en parlera cet après-midi, c'est vraiment cette énorme grâce que le Seigneur nous a faite de devenir participants les uns des autres dans la vie des uns des autres. Ça veut dire que nous sommes capables non seulement de recevoir la vie que Christ nous a donnée, mais aussi de la transmettre. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Le Seigneur nous a donné cette faculté incroyable de pouvoir générer la vie, de pouvoir transmettre la vie, et non pas n'importe quelle vie, mais la vie éternelle. Et c'est ça notre gloire. Le Seigneur nous a donné cette énorme grâce de pouvoir transmettre la vie éternelle à d'autres. Et ces personnes vont nous aimer éternellement. Et nous allons aimer éternellement ceux que nous avons enfantés et ceux qui nous ont enfantés. Donc vous comprenez le terme de gloire et l'infini amour entre nous quand nous serons tous auprès du Seigneur. Voilà. Donc n'oublions pas le terme de tout ce que nous allons vivre, parce que maintenant on va se concentrer un peu plus sur notre réalité quotidienne et effectivement on va voir un peu plus de choses de l'ordre des épreuves. Mais toujours les yeux fixés sur ce terme de gloire. Voilà. Alors ce matin, on va devoir un peu affronter, ça sera peut-être la partie la plus, voilà, hier j'ai dit aussi, pardon, si quand on parle de la souffrance, c'est très délicat, et nécessairement ça renvoie à des choses que vous vivez personnellement, nécessairement, et du coup c'est toujours un peu délicat de parler de la souffrance, et puis l'archevêque de Paris, un jour a dit, ne peut parler de la souffrance que celui qui la connaît. Et c'est vrai, des fois, on est très petit de la souffrance, on a eu des prédications pendant des siècles en exaltant la souffrance, mais est-ce que les personnes qui disaient ce qu'ils disaient savaient ce dont il s'agit ? Donc, on est très petit devant la souffrance, on est très démunis, et donc, voilà, je vous demande pardon si dans ce qui va être dit, ça va toucher des choses dans votre vie. Voilà, c'est très délicat comme sujet, on va essayer de l'aborder avec beaucoup de dignité, beaucoup de délicatesse, parce que seul celui qui souffre peut mesurer sa souffrance. Et personne ne peut dire à l'autre quoi faire de sa souffrance, vraiment. On ne peut pas donner des recommandations à personne de comment gérer sa souffrance. Ce serait une grande, grande erreur. On peut donner des indications, des possibilités, mais chacun, un théologien disait, chacun est prêtre de sa souffrance. Chacun est prêtre de sa propre souffrance. Je vous expliquerai un peu mieux cette expression dans l'après-midi, du lien entre, évidemment, sacerdoce et sacrifice. Voilà. Donc, voilà, ayant posé tout cela, on peut un peu commencer à aborder le sujet. Tout d'abord, c'est que effectivement, quand nous, on regarde le monde, on est quand même, d'une manière très objective, tout de suite confronté au mal. C'est un monde dans lequel il y a le mal. Et donc, voilà, on est confronté à cette réalité qui nous dépasse, qui est là, et qui n'a rien à voir avec notre personne. Et du coup, il y a un mal naturel, donc rien, en enlevant l'homme et tout ce que l'homme peut faire, il y a quand même un mal naturel, tremblement de terre, volcan, en tout cas qui touche l'homme, mais voilà, c'est un mal qui n'a pas l'air de dépendre directement de notre présence humaine, je veux dire. Donc il y a un mal qui existe, un peu un mal naturel, il y a un mal évidemment moral, c'est-à-dire qu'on voit que des personnes agissent d'une manière contraire à ce que tous les hommes reconnaissent comme juste. C'est pas seulement une question de foi chrétienne, c'est une question de conscience humaine. Et donc, on remarque qu'il y a un mal moral qui existe dans le monde. Et on remarque, donc on est juste au niveau de l'observation, qu'il y a un mal surnaturel. Ça, c'est notre foi chrétienne qui nous le dit. Il y a quelque chose qui dépasse seulement notre monde naturel et notre monde moral. Il y a quelque chose qui va au-delà de ces deux réalités et qui aussi est marquée par le mal. Donc au fait, à chaque strate, que ce soit naturel, moral ou surnaturel, on remarque qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on peut appeler le mal. Et c'est là où c'est important de dire une chose que le pape Jean-Paul II répète souvent, c'est que au fait, le mal en soi n'existe pas réellement. C'est-à-dire le mal, je vais vous expliquer parce qu'il existe, mais au fait, ce que le pape Jean-Paul II veut dire, que le mal, c'est toujours un manque de bien. Au fait, ce qui fait que le mal existe, c'est un manque de bien. Donc c'est un bien auquel on n'a pas adhéré. Et c'est pour ça que le mal existe. C'est pas en lui-même, c'est une absence du bien. Et donc du coup, c'est un peu quand on parle de la lumière, c'est de la même chose. L'obscurité n'existe pas. C'est une absence de lumière. Et du coup, c'est le même jeu, entre guillemets. Voilà, on peut pas mesurer l'obscurité, on peut mesurer seulement la lumière. On peut pas voir l'obscurité, on peut voir seulement la lumière. Mais quand il n'y a pas la lumière, on dit c'est l'obscurité. Mais en elle-même, c'est rien. L'obscurité en elle-même, c'est pas quelque chose. Et pareil pour le mal. Le mal en lui-même, on le définit, on le comprend, mais en lui-même, il n'a pas de consistance. C'est simplement un manque de bien. Et du coup, ça nous dit déjà un peu, mais voilà, j'anticipe, mais ça vous ouvre déjà une petite porte, c'est que évidemment, pour combattre le mal, on peut jamais le combattre directement. Il faut adhérer au bien. Donc, le seul moyen de combattre le mal, c'est d'adhérer au bien. Il n'y a pas de combattre le mal directement. Il faut juste adhérer plus au bien. Voilà. Alors, ayant dit cela, je vais vous dire peut-être quelque chose qui vous étonne, parce que même cela, j'enseigne un peu de religion à l'école, donc pour des adolescents, et au fait, on en est, je pense, à un point où on comprend même plus le mal nécessaire. C'est-à-dire que la souffrance, entre guillemets, c'est pas juste comme mot, mais un peu tout ce qui peut ressembler au mal, à la souffrance, mais qui reste nécessaire. C'est-à-dire tout ce qui peut être du genre de la discipline, de l'exercice, de l'entraînement, de l'application. Donc tout ce que je peux, au fait, me restreindre à un moment pour augmenter mon bien plus tard, cette idée-là, même celle-là, aujourd'hui, elle devient un peu difficile à accepter. C'est-à-dire de rentrer dans une dynamique que pendant un certain temps, je dois accepter des renoncements, mais seulement pour que plus tard, je puisse vivre mieux. Et donc, cette idée-là de construction d'un parcours est déjà en elle-même quelque chose qui est naturel, qui est bonne. Et même celle-là, on a du mal des fois à adhérer. Même quand le mal est quelque chose qui est, entre guillemets, un effort nécessaire, un renoncement nécessaire pour plus de vie. On parle toujours de notre vie ici-bas. Même cette logique de renoncer pendant un certain temps pour augmenter plus tard devient dans notre culture actuelle une logique un peu frustrante. Tout de suite, le renoncement actuel provoque de la frustration au lieu qu'il provoque de l'espérance. Vous voyez, donc, si on ne rentre pas dans la logique de la compréhension de ce qu'on disait au début de du terme de tout ce qu'on fait, au lieu de rentrer dans l'espérance, on rentre dans la frustration. Et ça, c'est important, ce qui différencie la frustration de l'espérance, c'est la conscience d'où est-ce que je veux en arriver. Et du coup, aujourd'hui, encore une fois, sans parler du terme de gloire dont je vous ai parlé, mais en parlant déjà de notre vie pour construire une carrière, pour construire une famille, pour construire une maison, tout ceci nécessite des renoncements. Il n'est pas possible d'arriver à un fruit sans un effort. Et même cette logique-là, qui est déjà, on voit, même de l'ordre naturel, sans parler de choses très surnaturelles, qui est croix, gloire, renoncement, fruit, et même cette logique-là, des fois, on doit encore l'expliquer, pour dire qu'elle s'inscrit dans notre humanité. Avant de parler de choses surnaturelles, dans notre humanité même, il y a cette logique de renoncement pour obtenir du fruit. Et donc, sacrifice pour plus de vie, elle existe dans notre vie naturelle. Et donc, du coup, en partant de cette image très simple de notre vie actuelle, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui lie le renoncement à la fécondité. Il y a un lien fort entre renoncement et fécondité. Et encore une fois, sans parler de choses surnaturelles dans notre vie actuelle. Et ça, c'est important de ne jamais oublier cette logique. Parce que c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on grandit, et c'est surtout comme ça qu'on est fécond. Et ça, ce mot qu'on va reprendre souvent, la fécondité, est nécessairement un don de soi. Et donc cette logique donnée maintenant pour recevoir plus tard, elle est tout à fait naturelle. Elle est dans l'ordre naturel des choses, et on va voir que Jésus la pousse à son extrême, il la pousse à sa limite jusqu'au seuil de la résurrection, mais c'est dans la même logique. Je renonce aujourd'hui pour avoir mieux. Je ne renonce jamais pour renoncer. Ça n'a pas de sens de renoncer pour renoncer. On renonce que pour la vie. On renonce que par amour. Et du coup, le renoncement pour le renoncement, c'est vrai, c'est une frustration. Voilà. Alors, juste un tout petit mot. Après, pour dire une petite chose, c'est qu'on peut distinguer un peu douleur et souffrance. Ce dont il s'agit pour nous humains, c'est plus la souffrance que la douleur. La douleur, en général, elle est très insupportable, mais c'est vrai que ce qui nous touche plus, c'est la souffrance. C'est la souffrance morale qui peut accompagner une certaine douleur. Voilà, donc juste pour distinguer, même si tout le monde n'est pas d'accord sur cette distinction entre douleur d'un côté et souffrance de l'autre. Nous, les humains, nous sommes les seuls à souffrir. Donc, les animaux, on dit, mais alors, encore une fois, vous trouverez dans certains auteurs des animaux qui souffrent. On n'est pas, la distinction n'est pas si claire partout, mais en général, on admet que douleur et que la souffrance serait quelque chose d'un peu plus typiquement humain, parce qu'il touche un peu plus notre âme, et voilà. Donc, du coup, nous parlerons plus souvent de souffrance que de douleur, mais encore une fois, cette distinction n'est pas complètement acceptée par tout le monde.
Tu nous montrerais comment accepter la douleur et la souffrance?
Oui, oui, ce sera le thème de... Mais il va falloir, c'est vrai que ce matin, ça va être un peu dans ce que je suis en train de dire, et on va passer progressivement durant l'homélie, et puis ce soir, à cette ouverture, mais c'est vrai qu'il faut commencer par ce genre de choses, mais ça va venir. Voilà. Alors, dans la Bible, on a une pléthore de souffrances. Le pape Jean-Paul II, avec tout le respect, évidemment, il appelle l'évangile le livre de la souffrance. J'aime pas beaucoup ce mot quand il parle de l'évangile, mais c'est juste une manière pour dire que, quand même, c'est une bonne nouvelle, mais c'est imprégné de souffrance. Toute la Bible et tout le Nouveau Testament est imprégné de souffrance, il faut qu'on le reconnaisse. Et donc, du coup, on voit, par exemple, je vais vous citer, le danger de mort. Évidemment, en Isaïe 38, c'est peut-être pas important que vous notiez, c'est juste parce qu'il y en a plein partout, mais voilà, c'est des exemples. La mort de ses propres enfants en Genèse 15 et 16, la mort du fils premier-né et unique en Tobie 10, la privation de descendance en Genèse 15, la nostalgie de la patrie dans le psaume 137, la persécution et l'hostilité du milieu dans le psaume 22, la raillerie et la dérision à l'égard de celui qui souffre, dans le livre de Job, évidemment, la solitude et l'abandon, dans le psaume 22, encore une fois, le remords de la conscience, dans le psaume 51, la difficulté de comprendre la prospérité des méchants et la souffrance des justes, psaume 73, l'infidélité et l'ingratitude des amis et des voisins, toujours Job, et les malheurs de sa propre patrie, et là, il y a une pléthore de références, Isaïe 22, Jérémie 4, et Ézéchiel 8, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est quand même juste pour donner une sorte de quelques exemples de beaucoup de types, de variétés de souffrances qu'on rencontre dans la Bible. Alors, c'est un sujet un peu délicat, et que effectivement, on va devoir dire tout et son contraire en abordant ça. C'est le lien entre mal et souffrance. C'est-à-dire, est-ce que c'est le mal qui provoque la souffrance ? Est-ce qu'il y a un lien direct entre mal et souffrance, oui ou non ? Et du coup, ça devient toujours très subtil parce que vous connaissez évidemment l'expression « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Le « qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» traduit une conviction ancienne et profonde que nécessairement le mal que je fais traduit une souffrance et le bien que je fais ne doit pas produire une souffrance. Et donc quand cette logique-là est perturbée, je suis un peu perdu. Quand je souffre alors que j'ai rien fait de mal, c'est très perturbant. Et du coup, il y a toujours cette incohérence, pourquoi la souffrance me touche alors que j'ai rien fait de mal. Voilà, et donc quel lien y a-t-il entre le mal et la souffrance? C'est une question qui traverse la Bible du début jusqu'à la fin. Quel est le lien entre le mal et la souffrance? Et donc, la Bible répond en plusieurs niveaux. Alors, je vais commencer par le niveau le plus tardif. Il n'y a aucun lien entre le mal et la souffrance. C'est-à-dire, on ne peut pas établir, et ça c'est vraiment important dans notre vie, la souffrance que je subis avec un mal objectif, soit en moi, soit dans le monde. C'est très difficile d'établir des liens. Je ne peux pas savoir si telle maladie m'a atteint, c'est à cause de tel mal dans le monde. C'est très difficile d'établir le lien, c'est très dangereux. Et j'anticipe aussi encore sur quelque chose que je vais dire. C'est une des questions qui, sinon redouble, mais en tout cas pèse d'une manière encore plus forte sur la souffrance qui est déjà forte, quand on rentre dans le pourquoi. Et les gens qu'on accompagne, ce qui les fait souffrir, c'est pas la souffrance, c'est pas la douleur, c'est le pourquoi. En fait, ce qui pèse le plus sur nous, c'est cette question. Et vraiment, encore une fois, les gens qu'on accompagne, la plus grande souffrance, c'est le pourquoi. À la limite, je peux accepter la douleur, mais au moins que je comprenne pourquoi. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués sur cette question, sur le pourquoi, et qui traduit le besoin de savoir le lien entre mal et souffrance. Voilà. Et qui est très difficile à établir, extrêmement difficile. Donc c'est très dangereux de rentrer dans cette logique, de rentrer dans cette dynamique de réflexion. Des fois, on y arrive, on n'est jamais certain, à établir un lien. C'est jamais sûr, et en tout cas, ça ne soulage pas, un tout petit peu. Donc en tout cas, c'est quelque chose autant que possible qu'on doit éviter, et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose Jésus, mais le pourquoi, dans le sens de comprendre les racines qui ont provoqué la souffrance que je vis, est une entreprise très dangereuse. Et elle rajoute à la souffrance au lieu de l'apaiser. Voilà, c'est pas facile de ne pas rentrer dans cette logique du pourquoi, mais c'est vrai que quand on peut, voilà, de pas rentrer dans cette dynamique, autant que possible, parce qu'on a besoin de comprendre des fois. Mais on va voir comment Jésus résout cette question. Il nous donne une ouverture, évidemment. Voilà. Et en même temps, il y a sûrement un lien entre un mal et la souffrance. C'est-à-dire, ce qui cause la souffrance, c'est le mal. Voilà. Il y a un lien, c'est seulement qu'on ne peut pas l'établir. Aujourd'hui, avec toute l'humanité qui nous a précédés, on ne peut pas l'établir. Je vous donne un exemple très simple. Mon ordinateur a été atteint d'un virus et j'ai perdu tous mes documents. Alors, c'est sûr que quelque part, quelqu'un dans le monde a créé ce virus. Voilà, quelqu'un a créé ce virus. Il l'a propagé sans l'intelligence humaine, sans la volonté d'un humain quelque part sur la Terre. Ce virus n'aura pas existé, il n'aura pas atteint mon ordinateur. Donc je sais qu'il y a un mal quelque part qui a produit cette souffrance que j'ai. Mais c'est extrêmement difficile d'aller chercher qui a créé ce virus, d'où est-ce qu'il est né, et comment il s'est propagé, et comment il est arrivé dans mon ordinateur. C'est très difficile. Et ça sert à quoi ? D'aller fouiller dans le passé, d'aller fouiller dans les autres réalités pour savoir elle est où l'origine de ce mal qui finalement est arrivé chez moi. Donc ça, c'est juste un exemple pour dire comment, oui, il y a un lien entre mal et souffrance. Quelque part, on le comprendra peut-être plus tard, mais aujourd'hui, c'est extrêmement complexe, notre monde et nos interactions, qu'on n'arrive plus à établir d'une manière claire le lien entre mal et souffrance. Donc voilà, donc, ayant dit cela, encore une fois, il faut aussi qu'on rajoute une troisième couche, et donc qui est le fait que, des fois, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi le mal, entre guillemets, la souffrance, que Dieu permet pour un plus grand bien, comme on a dit, pour nous-mêmes. Donc, au fait, la correction du Seigneur existe. C'est-à-dire, des fois, et c'est là où il faut un discernement, des fois, le Seigneur est en train de m'enseigner quelque chose comme un père pour que je puisse aussi grandir dans une certaine direction. La fameuse punition, pardon de ce mot qui est très archaïque et qui n'est plus à la mode du tout, mais on doit admettre dans la Bible que Dieu utilise. Et même saint Paul parle de la tristesse qui produit la vie. Il dit quand un père corrige son fils, ça produit de la tristesse, mais cette tristesse, elle nous conduit vers plus de joie. Donc vous voyez, il ne faut pas établir un lien direct entre mal et souffrance, et en même temps, il ne faut pas oublier non plus que Dieu, des fois, se sert de cette situation pour me faire grandir. Et ça peut être lié à un mal directement que j'ai fait. Vous voyez, donc c'est vraiment du discernement. Des fois, le Seigneur peut user d'une manière très subtile et très paternelle, c'est ça le mot, très paternelle, d'une correction. Ce n'est pas impossible. La correction est nécessaire. Nous avons besoin d'être corrigés. Donc vous voyez, c'est un peu subtil, comme je vous disais au départ, parce qu'on va dire tout et son contraire. Et en même temps, il faut maintenir surtout l'idée qu'il ne faut pas à chaque fois aller creuser pourquoi et aller chercher ses racines du mal, parce que, encore une fois, c'est ça qui peut nous peser plus que le mal en lui-même. Alors, donc, après, on va rentrer un peu dans ce genre de, comme on vient de dire, donc les souffrances utiles ou positives, ou en tout cas qui paraissent inévitables. Et donc, il y a les tribulations pour entrer dans le royaume, dont parle saint Paul. Donc, les témoins de la croix et de la résurrection étaient convaincus qu'il nous faut passer, c'est ce que dit saint Paul, par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous-mêmes sommes fiers de vous, de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et tribulations que vous supportez. Par là se manifeste le juste jugement de Dieu, où vous serez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez vous aussi. Donc, voilà, vous voyez, il y a quelque chose que de l'ordre du chemin nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu, et le mot nécessaire, on va le creuser plus tard ensemble, mais il paraît impossible de pouvoir suivre le Christ jusqu'au royaume sans être préparé à cette éventualité de la tribulation et de l'épreuve. C'est une sorte de progression normale. Donc il ne faut pas s'étonner. C'est peut-être ça, encore une fois, peut-être le mot le plus fort. Après, on va essayer de comprendre pourquoi c'est nécessaire. Mais en tout cas, en sachant que c'est nécessaire, on s'étonne un peu moins quand communautairement ou individuellement, on le vit. Le Christ, très souvent, il y a des livres entiers écrits sur ce mot « il faut ». Il faut. Jésus a très souvent a dit « il faut, il faut ». Pourquoi « il faut » Ce mot est très étrange. Il faut que le Christ souffre. Donc, cette nécessité reste un peu mystérieuse. On va la creuser ensemble. Mais au moins, on sait que c'est nécessaire. Au moins, on sait qu'il n'y a rien d'anormal. Au moins, on sait que ce que je vis n'est pas seulement moi. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du nécessaire. Et du coup, au moins, ça nous enlève le poids, encore une fois, de dire « pourquoi moi ?» Est-ce que je suis le seul à vivre ça? Non. Franchement, tous ceux qui sommes là, je pense que si on était amené à témoigner, chacun peut raconter son histoire. Et donc, du coup, on a autant d'histoires que de personnes présentes ici nécessairement. Et donc, du coup, voilà, au moins ça nous enlève le poids de penser qu'il n'y a que nous. Vraiment, il n'y a pas que nous. Et c'est le principe de la communauté chrétienne, c'est on se soutient. Parce que finalement, ce qu'on vit est normal. Normal dans le sens, c'est voilà, c'est nécessaire. Donc voilà, la tribulation pour entrer dans le royaume des cieux. Après, il y a un autre type de souffrance, encore une fois nécessaire ou positif, c'est l'enfantement. Et donc l'enfantement, ça aussi, c'est-à-dire, évidemment, par exemple, pour cet exemple-là, on sait que les douleurs de l'enfantement sont dues au péché. C'était la première, disons, douleur dont a été atteinte Ève, donc les douleurs de l'enfantement, donc on sait que c'est dû au péché, et n'empêche, ça participe à l'enfantement. Donc dès le départ, il y a, et oui, la douleur, mais tout de suite, il y a l'enfant qui vient. Et donc, il y a toujours cette joie qui naît de la douleur. Donc dès le départ, le Seigneur, après le péché, il a fait que la douleur devienne un chemin de la joie. Elle existe, oui, mais il en a fait un chemin pour plus de joie. Donc vous voyez, dès le départ, avec l'enfantement, le Seigneur va établir ce lien entre d'un côté la douleur et de l'autre l'enfantement. Et du coup, déjà, ça va être un paradigme. Paradigme, ça veut dire une sorte de modèle un peu qui va s'appliquer à plusieurs de nos réalités. Donc voilà, il a tout de suite mis un terme positif à un chemin difficile. Voilà, dès le départ, il a fait ça. Il l'a fait aussi avec Adam, la même chose. Donc, vous voyez, dès le départ, ça concerne la famille. D'un côté, Ève, avec les douleurs qui mènent à l'enfantement. Et de l'autre côté, on a Adam, avec la peine qui donne le fruit de la terre. Vous voyez ? Et donc, du coup, très très vite, le Seigneur a établi une sorte d'issue positive. Il n'a pas juste donné la peine. Il a donné la peine pour le fruit de la terre. Il a donné les douleurs de l'enfantement. Il a donné les douleurs pour l'enfantement. Donc vous voyez, très vite, on a établi un lien entre ces deux choses dès le départ. Voilà, une question.
C'est comme une question de passage.
Oui. Voilà, vous avez dit le plus grand mot de tout le christianisme, passage, qui veut dire Pâques. En fait, c'est ça, toute notre vie sont des passages en vue du passage vers la vie sans passage. Parce qu'une fois que... Voilà, toute notre vie sont des passages vers le passage, vers une vie sans passage. Parce qu'une fois qu'on y est, on y est. Mais c'est vrai que ce sont des Pâques en permanence, en permanence, en permanence, ce sont des Pâques. Et merci d'avoir tout ça, parce que plus on va s'exercer à ces petites Pâques quotidiennes, plus on va s'exercer à ces petites Pâques quotidiennes, plus dans notre vie, on va non seulement être convaincu au niveau de la théorie, au niveau de l'esprit, mais au niveau du concret de notre vie, que j'ai vécu plusieurs Pâques dans ma vie. J'ai vécu déjà plusieurs Pâques dans ma vie, nécessairement. J'ai vécu déjà plusieurs Pâques. Et donc, ces petites Pâques me préparent à la grande Pâque. Et quand, voilà, ce seuil que je vais devoir traverser, il est nourri de ma foi, mais il est aussi nourri de mon expérience chrétienne. Et au fait, c'est pour ça que je peux être serein, parce qu'en même temps, il y a la foi qui me le dit, et il y a en même temps mon expérience qui me dit que ça finit toujours bien. avec Jésus, ça finit toujours bien. Que ce soit clair. Vraiment, ça finit toujours bien. Si on est sûr d'une chose, c'est ça. On ne connaît pas le chemin, mais on sait où est-ce que ça va finir. Ça, le chemin reste un mystère, mais la certitude la plus absolue, comme je vous disais par rapport à la gloire, c'est que ça finit bien. Il n'y a aucune autre issue pour ceux qui sont dans le Christ. Il n'y a pas d'autre solution. Quand on est avec le Christ, ça finit nécessairement bien. C'est... Rien que ça, c'est déjà une grande promesse. Après le chemin, ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas des chutes sur le chemin. Voilà, donc du coup, ça c'était important un peu d'établir. Et donc, on a dit qu'il y avait la souffrance nécessaire qui est celle d'entrer dans le royaume des cieux, les souffrances de l'enfantement ou la peine du travail. Donc voilà aussi, ce sont des souffrances qui sont nécessaires. Et puis, un mot un peu étrange qui est qui a suscité beaucoup de débats de Saint Paul quand il parle de compléter les souffrances du Christ. Compléter les souffrances du Christ, ça a fait beaucoup débattre. Est-ce que Jésus n'avait pas déjà souffert pour tous? Est-ce qu'il pouvait manquer quelque chose au Christ auquel nous on peut rajouter? Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Nos souffrances sont toujours très imparfaites. Bon, voilà. Au fait, c'est pas qu'il manque quelque chose aux souffrances du Christ, c'est juste que le Christ nous rend participants de ses souffrances. Voilà, il nous rend participants de ses souffrances. Et encore une fois, dans l'homélie, plutôt ce soir, on va voir à quel point c'est beau, à quel point c'est un énorme cadeau qu'il nous fait. Et que même si maintenant, dans cette première partie, on doit parler d'une manière un peu pesante, peut-être un peu négative, mais on va voir très vite que c'est une énorme grâce qu'il nous fait, la plus grande des grâces, de participer à ses souffrances. Et heureusement que vous êtes chrétien, vous n'allez pas me prendre pour un fou, mais c'est vrai que cette phrase-là peut choquer. Et c'est juste que ça choque. C'est normal, mais quand on comprend un peu mieux les dynamiques de vie que Jésus nous a révélées, qu'on n'est plus des serviteurs, qu'on est des amis, parce que je vous ai tout dit, quand on comprend mieux ce qu'il y a derrière, alors dans ce cas-là, on sait que quand il nous rend participants de ses souffrances, parce que ce n'est pas n'importe quelle souffrance, c'est des souffrances christiques. C'est les souffrances du Christ, on en parlera. Christique, c'est les souffrances messianiques, c'est-à-dire c'est les souffrances qui nous font entrer dans notre onction personnelle de baptiser. Donc voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment une grande grâce. Une grande grâce que le Seigneur nous fait, et vous connaissez évidemment plein de saints, soit qui l'ont désiré, qui l'ont appelé avec toute leur ardeur, soit qui l'ont vécu avec beaucoup de joie au milieu de leur souffrance. Et c'est là où il faut qu'on comprenne mais comment c'est possible. Voilà, c'est bon. On n'est plus du tout dans la logique humaine, on est vraiment dans le surnaturel. Donc voilà. Et jusqu'à, voilà, et c'est là où on va un peu conclure, mais ça sera encore une fois dans la deuxième partie, jusqu'à dire que cette chose incroyable de Saint Paul, où il dit « Je trouve ma joie dans les souffrances, et c'est là la clé que j'endure pour vous. » Donc, mais on en parlera. Donc, « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. » Et voilà déjà une petite clé qui va nous mettre sur le chemin de comment le Christ il nous sauve effectivement. Alors juste avant d'aller un peu plus loin, un point important ayant parlé de tout cela, c'est très important aussi d'insister sur un autre point, sur le fait qu'on est appelé avant tout à soulager la souffrance. C'est-à-dire on est appelé avant tout aussi, et ça j'utilise à bon escient une manière de dire un peu choc, on est appelé à éviter la croix. C'est-à-dire que on n'est pas appelé toujours à avoir cette lecture chrétienne de ce que nous arrive. Quand on peut soulager, quand on peut éviter la croix, on doit le faire. Vous voyez, c'est-à-dire que des fois, et peut-être plus aujourd'hui, mais pendant longtemps, on a tellement insisté sur le bienfait de la souffrance, qu'on a fini par presque ne plus la soigner. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très grave quand on en arrive. Le jansénisme, pour n'en citer qu'une sorte de déviation sur ce thème, il y en a eu beaucoup. C'est ça, c'est-à-dire avoir tellement compris que Dieu peut voilà, transformer la souffrance en chemin de vie, que du coup, on n'arrive plus à... On est concentré sur ce thème-là. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas chrétien. Jésus, par plusieurs fois, il a évité la croix, par plusieurs fois, jusqu'à ce que son heure soit arrivée. Donc, il y a l'heure de la croix. C'est pas juste la croix, c'est pas n'importe quelle croix, c'est pas n'importe quand. Il y a la croix que je peux pas éviter, et Jésus a prié jusqu'à la dernière minute pour qu'il puisse éviter la croix. Donc, vous voyez, c'est très sain de ne pas aimer la croix, de ne pas la rechercher. Et en même temps, il y a le moment, vous voyez. Donc, parce qu'on ne peut pas du tout revenir sur un discours où on exalte la souffrance. Ce n'est pas du tout le discours, du tout, du tout. C'est juste quand elle est là, qu'on ne peut plus l'échapper, qu'on ne peut pas la soulager. Voilà, à ce moment-là, il y a une autre porte de sortie. Vous voyez, c'est-à-dire le Seigneur, c'est comme une stratégie militaire ce qu'il a fait, au fait, le Seigneur. C'est vrai, parce qu'il a un peu, comment dire, encerclé l'ennemi. D'un côté, il a soulagé, il a guéri, et il nous a donné le pouvoir de guérison, de sortir du mal par sa puissance, par sa force, par sa... Voilà, et donc du coup, c'est ce qu'il a fait lui pendant tout le temps. Donc il a combattu le mal en le détruisant. Ça, c'est la première stratégie. Et de l'autre côté, le mal, parce qu'on est en progression, le mal qui est encore inévitable, il lui a donné une issue positive. Vous voyez, donc d'un côté, il évite le mal, d'un côté, il le guérit, et de l'autre, il lui donne une issue positive. Et nous, il faut qu'on ait les deux. Quand on peut éviter le mal, quand on peut éviter la croix, il faut qu'on évite. Il faut qu'on soulage. Vous voyez, on ne peut pas dire, par exemple, ce qui était très souvent le cas à une certaine époque, à quelqu'un qui souffre, « Oui, mais tu es en train de te sanctifier. Oui, mais tu sauves des gens. » Je sais pas, c'est-à-dire que, peut-être d'abord, essayons de soulager sa souffrance, essayons un peu de le guérir. Et lui seul peut, lui seul, et c'est pour ça que je vous disais, chacun est prêtre de sa souffrance, personne ne peut dire à quelqu'un « Cette souffrance te sanctifie. » C'est lui-même qui doit le dire. C'est lui, il veut. Mais personne ne peut de l'extérieur dire à quelqu'un, voilà, cette souffrance-là, elle sert à sauver des âmes. Voilà ce qu'on a. Si lui-même, il ne le vit pas comme ça. Vous voyez? Donc, il y a un discours très subtil à en même temps comprendre la puissance infinie de la croix et vraiment qu'elle peut sauver des vies. Et en même temps, de ne pas s'y jeter inconsciemment. Vous voyez cet équilibre un peu entre deux que Jésus a fait, on n'a qu'à l'imiter. Plusieurs fois, lui, il voulait le tuer et lui, il a échappé jusqu'à ce que son heure soit venue, parce qu'on ne peut pas échapper jusqu'à la fin. Voilà.
Je trouve que c'est le raccordement que vous avez fait hier soir.
Oui.
En tous ceux qui pratiquent le sport, mais il y aura un seul vainqueur.
Oui.
Moi, ça m'a gardé la nuit éveillée.
Ah bon?
Oui, c'est... Un seul vainqueur.
Oui.
Comme vous dites, on
oui,
peut
oui.
soulager comme on peut, mais
oui.
il y a quelqu'un d'autre
oui.
qui est le grand vainqueur.
C'est ça.
Votre exemple hier était très parlant hier soir.
Oui, oui, oui. C'est vrai que bon, c'est Saint Paul qui a fait cette comparaison et qui nous éclaire beaucoup sur... c'est-à-dire que oui, la victoire que le Seigneur nous donne à sa suite. Voilà, et donc je vais conclure un peu, et donc voilà, je vous dis déjà que c'était un peu la partie la plus, voilà, on a touché plus au sujet de la souffrance d'une manière un peu générale, mais il fallait aborder ces thèmes, et on va voir un peu comment vraiment il y a une issue formidable qu'on n'aurait jamais pensé, on n'aurait jamais pu penser à cette victoire contre le mal que Jésus nous a donné dans sa croix. Et c'est tellement éblouissant qu'on va pouvoir peut-être en dire quelque chose, mais il faut vraiment le contempler et méditer pour que ça devienne tellement imprégné en nous, parce que vraiment les pensées du Seigneur sont au-delà de nos pensées et sa manière d'agir est très différente de la nôtre. Et même nous, qui avons 2000 ans de christianisme derrière nous, ce mystère de la croix-résurrection reste un étonnement et devrait le rester. Sauf si on ne l'a pas compris, on trouve que c'est normal. Mais plus on le comprend, plus on est ébloui. Quand je commence à m'habituer, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Ce n'est pas du tout habituel que le Fils de Dieu soit crucifié. C'est vraiment pas du tout normal. C'est pas normal que le Fils de Dieu soit crucifié. Voilà, et donc c'est là où juste je lis pour en conclusion.
Tu vas en revenir là-dessus ?
Pardon ?
Tu vas en parler de ça ?
J'ai pas compris.
Tu vas en reparler de ça, le ce que tu viens de parler.
Oui.
La croix de...
Bien sûr, oui, oui.
Ici pour 3 semaines.
Donc, juste, voilà, je vous lis Isaïe 53 que vous connaissez tous, mais je vais faire un saut. Donc, Isaïe 53, il dit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. » Et puis, il continue plus tard, et c'est là où il y a le basculement. « S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. » Ça, c'est vraiment le cœur de tout ce que Jésus va accomplir. Oui, Isaïe 53. Isaïe 53. Vous voyez, s'il offre sa vie, en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Ok, donc là, le mot offrande est très important et ça va concerner chacun de nous parce qu'il y a toujours un passage pour n'importe quelle situation. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est pauvre, il va vivre très douloureusement cette situation, mais quand il offre sa pauvreté au Christ, quand il consacre, entre guillemets, sa pauvreté, ce n'est plus du tout la même situation. La réalité reste la même, mais son cœur est complètement changé. Vous voyez comment une réalité peut être transfigurée, une pauvreté qui me pèse, une pauvreté qui me fait souffrir. Si je dis, moi j'imite le Christ pauvre, et je le vis pour le Christ, et en union avec sa pauvreté, en fait ça va tout changer dans ma vie quotidienne. Vous voyez ce basculement qui n'est pas dans juste l'ordre du réel, il ne va pas devenir riche, mais il sera heureux. Vous voyez, il sera heureux. Et c'est déjà un exemple pour vous dire comment, mais il y a le passage que chaque personne doit lui-même décider. C'est lui qui doit dire, moi je ne peux pas lui dire à un pauvre, mais t'es pauvre comme le Christ, je peux peut-être lui annoncer le Christ pauvre. Mais c'est à lui à un moment d'aimer tellement Jésus, de vouloir lui ressembler même dans sa pauvreté. Par amour du Christ, c'est-à-dire je t'aime tellement que je veux être pauvre comme toi. Donc cette chose qui était une sorte de donnée injuste pour lui peut devenir, s'il offre sa vie en sacrifice, s'il offre sa vie, peut devenir une participation encore une fois à cette grande croix glorieuse du Christ. Voilà, on laisse 5-10 minutes pour les questions. Et puis, tout à l'heure, à la messe, et puis ce soir, on abordera beaucoup plus comment, effectivement, cette croix, elle devient glorieuse. Voilà, tout ce mal qui existe peut être transfiguré, au fait.
Vous avez dit qu'il faut éviter le mal et la croix. Quand on peut, il faut l'éviter. Alors, pourquoi certains saints vont demander la souffrance? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est...
Oui. Alors, oui. Alors, oui, c'est là où on a un peu un discours qui doit tenir ensemble deux réalités qui sont contraires. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, un ermite, il est appelé à s'isoler au maximum de certaines personnes pour être plus uni à Dieu. Mais c'est pas nécessaire pour être plus uni à Dieu de s'isoler. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il y a certaines personnes qui sont appelées pour certaines raisons, et je vais vous l'expliquer pourquoi on peut être très attiré par cette au fait, ils ne sont pas attirés par la souffrance, et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. Moi, je n'en parlerai plus durant la retraite. Je vais juste arrêter maintenant, mais il fallait en parler. Parce qu'ils sont attirés par l'amour.
C'est ça que vous aviez dit tantôt.
Hein?
C'est ça que vous aviez dit tantôt. Il a tellement aimé.
Oui.
Il a tellement aimé Jésus, puis vous êtes comme lui.
Oui, voilà. Donc, ils sont attirés par l'amour tellement jusqu'à vouloir voilà, cette souffrance. Mais c'est l'amour le moteur, c'est pas du tout la souffrance. Et c'est pour ça qu'il faut que on va plus parler de la souffrance et on va commencer à parler beaucoup de l'amour, parce que la souffrance n'a aucune valeur en soi. C'est juste l'amour qui dépasse la souffrance, qui lui est saint. Et c'est ça la puissance de l'amour.
Excusez, ça pourrait être la vie des mystiques.
Oui.
Qui souffrent beaucoup dans la vie.
Pardon?
Ça pourrait être la vie de certains mystiques.
Oui.
Qui donnent leur vie, qui souffrent beaucoup pour la
vie. Oui.
Ils sont consentants.
Oui. Oui, mais par amour du Christ. C'est-à-dire qu'on prend tout de suite l'exemple inverse. Les jansénistes qui ont beaucoup souffert ne se sont pas sanctifiés. Vous voyez, la souffrance en elle-même n'a aucune valeur. Et saint Paul le dit, je peux donner mon corps à brûler, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Donc la souffrance, elle est nulle, nulle, nulle. Elle n'a aucune valeur. C'est juste l'amour qui va au-delà de la souffrance. Donc, ce n'est pas l'amour à cause de la souffrance, mais c'est l'amour qui ne s'arrête pas à la souffrance. Donc, la souffrance, ce n'est pas quelque chose qui aide l'amour, mais c'est quelque chose que l'amour dépasse. Alors là, il y a un amour extraordinaire. Il y a un amour divin. Vous voyez, ce n'est plus de l'amour parce que tu me fais du bien. Je t'aime même quand tu me fais souffrir. Alors là, je t'aime. Là, je t'aime. Je t'aime même quand tu me fais souffrir, ma mère me l'a souvent dit. Et donc, je t'aime vraiment.
J'ai aimé quand vous avez dit
pardon.
Offrir sa pauvreté au Christ.
Oui.
Oui, j'ai les c'est passages ça. Qu'on a à faire.
Oui.
Mais moi, j'ajoute, pour le salut du monde. Pour
oui. L'humanité. Super. Très beau. Exactement.
Il me semble qu'on est resté sur l'amour du Christ, je comprends.
Ouais.
Pour faire le passage, il faut l'amour du Christ.
C'est ça.
Mais beaucoup, beaucoup pour le salut du monde.
Merci, c'est très vrai. Et ce sont les deux amours qui sont le même, parce que dès qu'on aime le Christ, tout de suite, on nous dit « t'es frère ». Donc, il nous renvoie tout de suite au frère, il ne veut pas être aimé, lui, comme ça. Tout de suite, on nous dit « mais t'es frère, qu'est-ce que t'en fais de tes frères, donc l'amour du monde ?» Et donc c'est inséparable, l'amour du Christ et l'amour du monde, c'est inséparable. Et du coup, effectivement, mais quand on est rentré dans cette logique...
Je sens que moi, ça ajoute une grande dimension.
Ouais, ouais, ouais.
L'humanité.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà.
Ma question va complètement ailleurs. Au début, quand vous avez dit lien entre mal et souffrance, et en même temps, vous avez pris l'exemple de virus qui a...
Ouais. Qui atteint, voilà.
Qui a atteint votre ordinateur tourné, vous m'avez fait penser en même temps, s'il n'existe aucun lien entre mal et souffrance, et il en existe quelque part aussi, qu'en pensez-vous du virus du sida? On souffre,
oui.
On a mal, et donc comment que quelqu'un apprivoise quelqu'un qui a mal, c'est vrai, oui. On ne peut pas dire à la personne de prendre ça comme et c'est la mortification, c'est un cadeau du Seigneur, ou bien c'est votre péché qui vous fait souffrir. Donc, comment qu'on doit s'y prendre? Parce que la personne a mal dans son corps.
Oui.
Et ça amène aussi à l'esprit. Ce n'est pas seulement le corps.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ça atteint. Comment vous voyez ça? Parce que c'est, on parle de virus là. On parle de lien entre mal et souffrance.
Oui. Je n'ai pas très, très bien compris la question, mais je veux dire que, par exemple, dans ce cas-là...
Comment s'y prendre? Comment aider cette personne à cheminer avec ce mal
qui
devient aussi souffrance et mal, comme je dis, à tous les niveaux, mal dans son corps, mal au niveau de l'esprit, la spiritualité aussi, parce que c'est à cause d'un péché, peut-être que cette personne, parce qu'il y a des personnes qui contractent ce virus, c'est pas parce que la personne était une personne dépravée, Donc, c'est en recevant un sang. Bon, bref,
oui, oui.
C'est tout ça. Donc.
Oui, oui, c'est-à-dire que ce soit ce cas ou n'importe quel autre cas, effectivement, il y a. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lier le mal qu'on vit, la souffrance, avec ses racines. Alors, j'anticipe un peu, mais effectivement, la question pourquoi est très compliquée à résoudre. Et dès qu'on rentre dedans, on est vraiment. C'est-à-dire que ça rajoute beaucoup à notre souffrance. Le Christ nous propose une autre voie de sortie. Ce n'est pas le pourquoi comme étant conséquence, mais pourquoi en tant que offrande. Pourquoi tu veux souffrir? Pourquoi? Et pas pourquoi dans le passé. Ou pour qui tu veux souffrir? Donc, au fait, il va changer la question en enlevant cette recherche des racines, des conséquences, du mal que j'ai moi-même fait. Voilà, toute cette chaîne avant.
Ça serait justement, veux-tu donner ta souffrance?
Oui, voilà. C'est plus une sorte d'orientation de la souffrance qu'une compréhension de ses racines. La compréhension des racines, mais même quand on établit le lien. Imaginons que cette personne, effectivement, était une prostituée, qu'effectivement, à cause de sa prostitution, a attrapé le virus. Ça ne veut pas dire que Dieu est en train de la punir à cause du mal, parce que si Dieu agit comme ça, il faut qu'il punisse tout le monde. Or non. Or non. Donc même quand le lien est très clair, ça ne veut pas dire que, voilà, que c'est pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que même quand le lien est clair, parce que si Dieu l'a voulu seulement pour punir le mal que cette personne a fait, il doit punir tout le monde. Or, très souvent, la plupart des gens font beaucoup de mal et y échappent. Donc, cette logique mal, souffrance...
C'est pour ça que ça devient dangereux à essayer d'analyser.
Ouais, donc, il ne faut pas analyser. Le Christ nous propose de nous projeter vers l'avant et ne plus de regarder en arrière, de regarder en avant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça? Maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu fais de ça? Et je te propose un chemin si tu veux l'emprunter. Voilà, il nous propose d'aller de l'avant.
Si je comprends bien, là, je vois aussi la miséricorde de Dieu.
Oui, oui, oui.
Le péché, c'est un peu le mal qu'on se fait, parce que c'est nous qui s'atteignons par le péché, c'est le mal qu'on se fait aussi.
Oui, bien sûr, que le mal qu'on s'auto... Bien sûr. Ça, c'est très important, oui.
Il veut qu'on soit heureux.
Oui.
Mais on s'empêche, on se coupe.
Oui.
C'est comme si c'est...
Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai, c'est une dimension importante parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que les autres qui sont méchants avec nous-mêmes, mais nous sommes méchants avec nous-mêmes. Nous pouvons nous faire du mal.
Oui.
Oui, oui.
Est-ce que tu peux parler de la... Parce qu'à un moment donné, tu as dit Jésus a repoussé la croix à quelques reprises. C'est un peu ça aussi qu'on doit comprendre, oui. À travers ça. Nous aussi, on a fait une croix, on ne compte pas repousser.
Oui.
Mais est-ce que tu veux revenir sur le fait que... Parce que tu as aussi dit qu'on va avoir nous aussi une croix à compter. Une vraie croix à compter.
Oui.
Est-ce que tu vas revenir sur ça?
C'est-à-dire, c'est toujours aussi de l'ordre du discernement. Malheureusement, on n'a pas des schémas très clairs en disant « Cette croix-là, c'est une croix qu'il faut que tu évites. Cette croix-là, il faut que tu la portes. » C'est-à-dire, c'est vraiment du discernement. Mais c'est sûr que quand on peut éviter les croix, il faut les éviter. On ne peut pas, sauf appel particulier du Seigneur, voilà, à... Je ne sais pas quel renoncement, mais on ne peut pas désirer, par exemple, la maladie, on ne peut pas la désirer. Il faut qu'on aime la santé. Ce serait pas... Voilà. Donc, c'est pour ça, au fait, il n'y a pas de règle générale. Quand est-ce qu'il faut éviter et quand est-ce qu'il faut embrasser la croix? Peut-être la seule chose, c'est quand elle est inévitable. Quand elle est inévitable, qu'on a tout fait pour l'éviter et que, concrètement, il n'y a pas de choix pour l'éviter, alors là, on peut rentrer dans une compréhension chrétienne de ce qu'on vit, et il y a une porte de sortie encore plus belle. C'est ça ce qui est génial, c'est que si on l'évite, c'est bien, et si on ne peut pas l'éviter et qu'on rentre dans une logique chrétienne, c'est mieux. Vous voyez, c'est-à-dire, encore une fois, cette stratégie militaire du Christ, où, au fait, on peut l'éviter, super, on ne peut pas l'éviter, encore mieux. Lui... Vous voyez, c'est voilà, juste parce qu'il y avait une question, puis après il faut qu'on parte à la.
C'est ce que je me disais aussi, parce qu'il y a des moments dans notre cheminement où on ne peut pas l'éviter. Et à ce moment-là,
on peut pas
éviter la croix,
ouais.
Ou la souffrance, ouais. La souffrance qui vient avec. Et moi, je me dis toujours,
le Christ a vécu tout.
Ouais.
Toutes les souffrances que l'on peut vivre, ouais. Il l'a vécu.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est porteur d'espoir.
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, c'est de s'appuyer sur lui.
Exact.
De lui offrir. On sait qu'il l'a vécu.
Ouais.
Qu'il comprend.
Ouais.
Fait que notre cri ou notre. Il est entendu.
Oui.
Puis il est compris.
Oui. C'est vrai. S'il y a quelqu'un en prison, ça me plaît toujours cette histoire. Il avait fait un énorme tatouage sur son dos avec la croix du Christ et il a écrit « Il a souffert plus que moi ». Et c'était pour lui une énorme source de courage, de consolation, de force, de savoir que le Dieu Tout-Puissant a souffert plus que lui.
Oui.
Oui. Oui, je vais vous le donner là, je ne l'ai pas tout de suite, j'ai marqué juste, mais je vais vous la donner. Celle-là dont vous parlez, la tribulation ou une autre? Oui, ça je vais vous donner la référence, je ne l'ai pas écrite ici, mais oui, je vais vous la donner. Oui.
Et entre autres, premièrement, on s'est enfermé.
Oui.
Alors que quand on l'offre au Christ, on sort de
cette bulle, oui, tunnel, oui.
De l'absurdité,
oui.
Et de la solitude métaphysique, même,
oui.
Que la souffrance intense peut nous apporter. Mais aussi un autre piège dans la souffrance humaine, on peut devenir méchant.
Oui.
Tellement on a souffert.
Oui.
Et ça, là,
merci, oui.
Ça, c'est la fin des haricots.
Wow.
Parce que la porte se ferme complètement.
Ouais. Ouais.
Ça, c'est vraiment le pire du pire.
Ouais. Oui, oui, merci. Parce que là.
Je me dis, le Christ a vécu sur la croix, quand il a souffert à la fin, jusqu'au bout, jusqu'au sentiment d'abandon du Père. Ça, là, c'est le.
Ouais.
Ça, c'est atroce.
Ouais. Ouais.
Pour finalement, à la fin, remettre son esprit.
Oui. C'est ça.
Et lui dire, j'ai tout fait.
Ouais.
J'ai fait ce qu'il fallait faire.
Ouais.
Il a offert sa douleur.
Ouais.
Moi, je me dis, c'est une source de... On sort du bordel.
Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.
C'est littéralement
ouais. Ça. Ouais. C'est vrai. Au fait, ce que vous dites est très beau, parce que c'est vrai que si on ne tue pas cette souffrance, elle nous tue.
Exactement.
C'est-à-dire, elle nous tue, la souffrance, elle nous rend méchants, elle s'est déprimée, ainsi. Les chrétiens, on peut connaître. Oui, oui.
Ou, en tout cas, tout un cortège,
oui,
des choses extrêmement négatives.
Oui. Oui. Bon, sachant que, encore une fois, pour revenir à notre humanité, si nous, on connaît ces sentiments, c'est pas très grave. C'est-à-dire, si dans notre parcours, on a connu une révolte intérieure face à la souffrance, même contre Dieu, moi je connais des gens après des années de christianisme, de prière, de voilà, quand ils ont eu une maladie, ils ont été très fâchés contre Dieu. C'est normal, ok ? On ne s'inquiète pas si on connaît ces sentiments. On peut les traverser. Vous voyez ? Alors, ceux à qui le Seigneur fait une grâce de tout de suite entrer dans cette espérance chrétienne, c'est vraiment un cadeau. Mais ne pas trop culpabiliser si humainement, j'arrive pas à rentrer dans cette logique du Christ. Même l'ayant intégré, connu, j'y crois, ainsi de suite, des fois, je me trouve humainement bloqué.
Ouais.
Vous voyez ? Donc, voilà. Oui.
J'aimerais savoir les massacres des innocents dans l'Ancien Testament.
Oui.
On parle, par exemple, de l'aveugle né dans le Nouveau Testament qui est né aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée dans la vie des parents, des enfants qui étaient massacrés pour sauver la vie à Jésus?
Alors, est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée? C'est ça la question.
Comment est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée? Comment ça s'est manifesté dans la vie des parents dont les enfants ont été tués pour sauver la vie à Jésus?
Alors non, évidemment, on ne peut pas parler du moment même. Non, mais je vous dis deux exemples comme ça qui me viennent tout de suite à l'esprit. Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Elle aimait beaucoup ses enfants innocents. Et elle dit, bienheureux sont-ils parce qu'ils ont volé le ciel. Et nous, on doit se fatiguer, mais toute notre vie, pour arriver là où ils sont. Donc pour elle, c'était... Donc ça, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une réponse qu'on peut donner que à... Mais l'autre question, comme l'autre réponse... Mais... Alors, en moi-même, non, hein, c'est toujours la croix quand elle frappe la croix. Et ça, je vais peut-être dire quelque chose que je n'avais pas prévu, mais je peux vous le dire déjà. On oublie souvent qu'entre le vendredi et le dimanche, il y a samedi. C'est-à-dire, entre l'action du mal et la réponse de Dieu, il y a un temps. Vous voyez, Dieu ne répond pas tout de suite au mal. Il y a un temps qui est beaucoup plus difficile que vendredi. Hein. Moi, pour moi, samedi saint, c'est un temps plus difficile que vendredi. C'est-à-dire que ce que Marie a vécu samedi doit être plus difficile que vendredi. Vendredi, elle pouvait espérer encore qu'il descende de la croix. Elle pouvait encore espérer qu'il se passe un miracle. Donc, il y avait tout était encore permis le vendredi. On était encore dans les derniers moments du combat, mais on pouvait encore gagner. Samedi, on a perdu. Samedi, on a perdu et on voit encore rien. Donc, c'est comme si on a eu une guerre et on sort le matin et la ville est détruite.
Encore là, c'est le temps d'attente.
Oui, et ça, c'est l'attente. Voilà. Voilà. Et c'est ça. Et donc, l'attente, et donc, au moment où ces enfants ont été tués, évidemment, ils n'ont pas vu la gloire. Peut-être quand Jésus a été glorifié, parce qu'ils ont vu ça aussi, qu'ils ont vu Jésus glorifié, peut-être, hein, à un moment, ses parents, je ne sais pas. Hein, mais je veux dire qu'au fait, c'est la gloire vient après un temps. Et ça, ce temps, à mon avis, c'est une des grandes épreuves. Plus que la souffrance elle-même, c'est l'attente de la réponse de Dieu. Et c'est souvent, où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es absent. Donc, sort toutes ces questions légitimes. Mais il y a samedi, il y a toujours un samedi, entre vendredi et dimanche. Hein?
J'aime ça que tu
dises. Ouais, il y a un samedi entre vendredi et dimanche. c'est les choses les plus... Il est intelligent, Dieu, hein? Non, mais vraiment, Dieu est très intelligent. Moi, j'aime son intelligence parce qu'il aurait pu faire ressusciter Jésus samedi. Mais comme il veut nous expliquer qu'il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Moi, je ne peux pas tout régler vos problèmes tout de suite pour 1000 raisons que je vous expliquerai plus tard. Faites-moi confiance.
Qui tu parles, de toi ou de lui?
Hein?
De qui tu parles?
De lui, de lui. Ah oui, non, je prête ma voix. Non, non, je prête ma voix, je prête ma voix.
L'attente est nécessaire.
L'attente est nécessaire, ouais.
Même dans la souffrance, même si on est là, même
ouais.
Si on espère... Il y a un attente.
Ouais, ouais,
on
ne
sait
ouais.
Pas quand ça va arriver, puis ouais. Quand est-ce qu'il va y avoir le
exact, de... exact, exact. Donc la gloire, ce n'est pas tout de suite, au moment de la croix. Elle vient plus tard. Toute dernière question, parce qu'il faut que j'imprime l'homélie.
En fait, le plus difficile pour la Sainte Vierge, c'était une attente.
Pardon, l'attente.
Le moment le plus difficile pour la Sainte Vierge, c'était
l'attente. La tombe. L'attente, oui, pour moi, hein, c'est-à-dire on n'a pas décrit l'attente. L'attente, c'est-à-dire, je pense, hein, mais c'est vraiment une méditation personnelle, que je pense que ça a été plus difficile pour elle samedi, où elle était vraiment pour l'unique fois de sa vie sans Jésus. Parce que vendredi, elle l'entendait encore, elle le voyait encore. Donc, même s'il était souffrant, il était là. Et samedi, il n'était plus là. Et c'est le seul jour dans l'année où on a les tabernacles ouverts, où il n'y a plus l'Eucharistie. C'est terrible. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un jour terrible samedi. C'est pas, on rigole pas. C'est-à-dire qu'on rigole pas. C'est vraiment vendredi. Il y a beaucoup de choses à comprendre, mais samedi, il y a aussi vraiment une absence très très pesante. Donc pour Marie, ne pas voir Jésus, ne pas l'entendre, et ce moment-là. Et c'est pour ça, je pense que samedi est devenu le jour de Marie, parce que c'est vraiment le jour où elle a vécu sa passion. Vous voyez, elle a aussi, elle, vécu sa passion, sa compassion. On va en parler de la compassion demain. Donc, voilà.
Jésus a vécu, a vu ma vie la première fois.
Ouais, je suis d'accord. Vraiment, je suis d'accord.
Oh, c'est ça.